les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Je ne vous ferai pas l'injure de vous faire la chanson Allo Papa Tango Charlie, bien qu'on va peut-être en parler. On va laisser Mort Schumann là où il est, c'était bien Mort Schumann.
Oui.
On va vous parler aujourd'hui d'une série qui a été diffusée entre 1976 et 1978 sur NBC. Le titre original n'est pas très loin du titre de cette chanson de Mort Schumann, puisqu'il s'agit de Baba Black Sheet, et en français...
Des têtes brûlées. Et donc, c'est donc pas un papa Tango Charlie, mais un pépé Tango Charlie.
Oui. Oh là là. Pépé Boyington.
Voilà. Est-ce que je dois présenter Les têtes brûlées? Moi, je m'en souviens de quand j'étais petite. Maintenant, je commence à être un peu vieille, donc je sais jamais.
Mais je crois que ça dépend d'une génération. Moi, particulièrement, ça m'a pas franchement marqué, en tout cas.
Ben, moi et mon frère, on adorait. Donc, Pépé Boyington, c'est un as de l'aviation qui dirige l'escadrille 214. Ce sont donc des pilotes d'élite qui se battent durant la Deuxième Guerre mondiale contre les Japonais dans le Pacifique. Boyington est en fait entouré d'hommes qui devaient passer en cours martial et n'est lui-même d'ailleurs pas à l'après d'une, puisqu'il a piqué un avion pour tenter de rentrer lui-même aux USA tout seul quand l'armée ne lui paye pas ses primes. Et un officier qui n'apprécie pas tout à fait ses manières l'affecte à l'île d'Espritos Marcos, où il s'oppose directement avec ses nouveaux supérieurs. Alors le colonel Lard est d'ailleurs joué par Danal Kerr, le boss de MacGyver après. C'est d'ailleurs grâce à la punition que Lard lui inflige qu'il prend connaissance des dossiers de ses futurs hommes, puisqu'il est censé ranger les documents administratifs qui vont partir en cour martiale.
On est clairement bien loin des Tanguy et la Verdure des Chevaliers du Ciel.
Hein.
C'est pas les héros blancs, les chevaliers blancs de la série française.
Et on est assez loin aussi de Frères d'Armes dans le genre, tu vois. Alors bon, il rassemble tous ses pilotes, il vole les avions de la réelle escadrille 214 et il décide de partir pour l'île de Velala Cava où il leur apprend à voler, parce qu'en fait c'était pas encore des as, et ils attaquent une base ennemie pour prouver leur valeur et donc pour gagner par un tour de force le droit de garder ces avions de l'escadrille 214. C'est tout à fait pas réel du tout tout ça, évidemment.
Ça fait très agence touriste hein, quand tu l'expliques comme
Et d'ailleurs le générique il ressemble très fort à l'agence touriste. Tous les épisodes suivants vont montrer les aventures de ces pilotes contre les Japonais, leur opposition aussi avec le colonel Lard qui essaye de leur foutre des bâtons dans les roues, leurs escarmouches avec les autres corps d'armée américaines, particulièrement les Marines qui passent par l'île, et leurs exploits amoureux avec les infirmières de l'hôpital voisin, puisque c'est pour ça qu'ils ont choisi cette île. Il y a un hôpital avec des infirmières dedans. Boyington est secondé par Jim Gutterman et ses pilotes s'appellent Jerry Bragg, T.G. Wiley, Bob Anderson, Larry Casey, French, Boyle, et il y a deux mécanos, Hutch au tout début, puis qui sera remplacé par Mick Lean. Ceux qui ont regardé ça quand ils étaient petits se souviennent évidemment de tous ces noms. Je vous ai déjà cité le nom de Danael Carr qui jouera ensuite Peter Thornton, ou c'est dur à dire, dans MacGyver. C'est pas la seule tête connue de la série des têtes brûlées. Robert Conrad s'était déjà illustré dans Les Mystères de l'Ouest. Il n'y a même pas besoin de le présenter,
je pense.
Voilà, c'est une vraie vedette de la télévision et du cinéma. Joe R. S. Scott, qui reviendra après dans Dallas, Dynasty et Capitol, donc très Aaron Spelling touch. John LaRocquette, qui a eu droit après à son propre show, le John LaRocquette Show, qui fait partie du casting de Tribunal de Nuit et qui est apparu plus récemment dans West Wing et The Practice. Donc c'est vraiment des visages qu'on connaît. Larry Manetti, alors là, Magnum. Tout le monde connaît ce type. Alors il y en a d'autres, hein. Il y en a qui sont apparus dans Jacques comme Stratton ou Jeff McKee. Jeff McKee d'ailleurs il jouait dans Supercopter. Oui, c'est toutes les séries des années 80 qui ressortent là tout d'un coup, voyez. Vous entendez au son de ma voix que je suis une enfant des années 80. Et le créateur de la série n'est d'autre que Stephen G. Cannell qu'on présente plus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs le générique ressemble au générique de l'agence Tourisque. La série a reçu une audience convenable sans plus, selon les termes de Didier Liardet dans son bouquin. D'ailleurs je vous conseille son bouquin sur les têtes brûlées si vous êtes des fans. C'est pas totalement critique comme bouquin, il adorait, on sent, et
c'est
voilà.
Le bouquin d'un fan, quoi.
Voilà, c'est le bouquin d'un fan. NBC n'en était pas totalement contente, et donc elle n'aura duré que deux saisons, et la deuxième ne faisant que 14 épisodes. Donc en même temps, si vous voulez vous taper la série, si vous détestez, vous n'allez pas souffrir longtemps, en clair. Alors je vous propose d'écouter d'abord un petit extrait. C'est la première rencontre entre Boyington et Lard et vous allez voir que ça se passe déjà pas bien.
On dirait que vous cherchez des emmerdements, Boyington.
Je m'excuse, colonel, mais je ne comprends pas.
Vous êtes précédé par une réputation de mercenaire héroïque. 6 avions 0 à votre acquis. Alors laissez-moi vous le dire, j'en ai marre des problèmes que provoquent les mecs de votre genre. J'en ai trop déjà. Et je refuse d'en recevoir un de plus. En particulier quand il s'agit d'un briseur de règlement et d'un soudard. Est-ce que c'est clair ?
Colonel, j'ignore ce que le commandant Mathis vous a dit sur moi, mais j'avoue que nous nous entendions très mal. Je voudrais sincèrement recommencer à zéro ici.
Et vous espérez que je vais vous croire. Rapport de ce matin du bureau des troupes aéroportées au sujet des nouveaux arrivants. Je vois un commandant Boynton à bord. Commandant Boynton. Ce commandant a été intercepté à Calcutta, transportant le chien du général Moore depuis une petite bourgade de l'ouest du Texas. Ce ne serait pas vous par hasard, sous-lieutenant.
Puis-je voir ce rapport, colonel ? Merci. Bon, à mon avis, ça cafouille tout du long.
Ah oui,
bah, bien sûr, pour commencer. Le général Moore est de Pennsylvanie et pas de l'ouest du Texas. Je ne suis que lieutenant et pas commandant. Ensuite, si vous consultez les règlements de l'enseignement militaire, vous y verrez un paragraphe interdisant l'importation des animaux domestiques sans autorisation officielle. Si je peux vous donner un conseil, j'expédierai ce rapport aux autorités qui vous l'ont envoyé pour qu'ils le revoient. Enfin, si vous pensez que ça vaut la peine de vous en donner le mal.
Et comment, lieutenant ? Et ce ne sera pas une perte de temps. Vous vous croyez vraiment à plus fort que tout le monde, n'est-ce pas ?
Si je réponds à cette question, je vais encore m'attirer des emmerdements.
À moi de vous donner un petit conseil, lieutenant. Notre règle de vie est fondée sur deux livres dans cette île. Tout le monde en respecte les lois et nous n'en avons pas d'autres. Savez-vous lesquels ?
Ah, ne me dites pas que le manuel des marines est l'un d'eux.
Vous êtes tombé pile. Et l'autre livre est celui des règlements militaires des forces navales. Connaissez-vous l'un ou l'autre de ces deux livres ? Dites-moi.
Oui, quand j'étais Boy Scout, il me semble que ces manuels m'ont été mis en main quelquefois. Mais j'avoue, je suis un peu paresseux intellectuellement, et pour être honnête, j'attendais que la marine édite un résumé de ces manuels, parce qu'un copain m'avait dit qu'il faisait un millier de pages chacun.
Le premier fait 1226 pages. Et vous allez vivre et apprendre par cœur chaque page sans exception, sinon vous irez pourrir dans un cachot. Est-ce que c'est compris ? Maintenant, allez-vous-en, rejoignez vos quartiers, et dites au commandant Sanderson que vous êtes consigné. Vous savez ce que ça veut dire ?
Oui, colonel, je lui dirai.
Je l'espère, et vous le serez jusqu'à ce que je sache qui se fout de la gueule de qui avec ce rapport des forces aéroportées de dingue. Foutez-moi le camp !
Oui, colonel.
C'est une idée où on sent bien que le règlement, il a pas l'air de l'avoir lu.
Mais en même temps, les Marines n'avaient qu'à éditer un résumé aussi du règlement.
Tant qu'à faire.
C'est vrai que c'est un des passages du pilote qui brosse bien le portrait du personnage. Boynton est un rebelle qui n'aime pas le règlement et il déteste l'ARD. Et ça va pas bien se passer. Il faut voir les mimiques, évidemment. Ça, on l'a pas à la radio. Évidemment, la guerre du Pacifique a bien eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front du Pacifique. Voyez, du côté d'Hiroshima et tout ça, vous vous situez quand même. Donc le cadre historique est réel.
Situation peut-être un peu moins. On l'a évoqué dans la première partie.
Et je vais d'ailleurs en parler maintenant.
C'est un peu tiré par les cheveux.
Et pourtant, figure-toi que ça, on le sait pas nécessairement, mais cette série est tirée de la réelle vie du Major Boynton, qui a réellement existé et qui a réellement dirigé l'escadrille 214, qui était réellement au Pacifique. C'était d'ailleurs des as. Ils ont descendu 97 appareils ennemis pour seulement 10 pilotes américains morts, ce qui est un des records, je pense, de la guerre. La série est d'ailleurs basée sur l'autobiographie de Pepe Boynton, qui s'appelle The Flying Misfits. Et d'ailleurs, dans les grandes lignes, son statut d'as et son passé dans l'armée sont plus ou moins respectés. Il s'entendait réellement bien avec le général Moore, il détestait le colonel Lard. Son caractère est à peu près gardé, c'était aussi un peu un rebelle. Il n'était pas vraiment attaché au règlement militaire en vrai non plus. Il était réellement surnommé Papy par ses pilotes, parce que 36 ans, c'est un peu vieux pour être un pilote dans l'armée, paraît-il. Mais on oublie aussi de dire que, par exemple, il était divorcé, parce que ça faisait pas joli dans une série à l'époque. Donc voilà. Par contre, il est complètement faux que ces hommes étaient promis à la cour martiale, et les survivants n'ont d'ailleurs pas été très contents de ce petit retournement de situation. Ça a pas eu l'air de déranger le vrai Boynton qui a servi de conseiller technique sur la série. Les mauvaises langues dans les survivants disent qu'en fait il était surtout intéressé par le salaire. Le comportement télévisuel de l'escadrille 214, par exemple le flirt avec les infirmières, le fait qu'ils n'étaient pas du tout habillés avec un uniforme impeccable, il y en a un qui a un chapeau de cow-boy, enfin bref, c'est n'importe quoi, des chemises hawaïennes, ressemble plus finalement à l'escadrille précédente de Pepe Boynton, les tigres volants qui étaient basés en Chine, plutôt qu'à l'escadrille 214. Donc vous l'aurez compris, la série n'est pas franchement une série historique
proprement parler. Beaucoup de liberté.
Voilà. Les dates et les faits sont pas réels, et pourtant certains thèmes sont réels, finalement. Notamment les traumatismes physiques et psychologiques de la guerre, attention, hein, c'est pas platoon non plus. Les carences logistiques et les carences d'approvisionnement, tout ça c'est vrai. Certains détails en plus accréditent la série puisqu'ils se basent parfois sur certaines batailles réelles qui rejouent à leur propre manière, mais elles ont vraiment eu lieu. Les avions utilisés sont des avions d'époque, les noms des lieux et la carte géographique à part certaines îles sont vrais, le surnom de l'escadrille était réellement les têtes brûlées à l'époque. On utilise d'ailleurs les images d'archives pour les combats, puisqu'ils n'ont évidemment pas refait des combats aériens, à l'époque on n'avait pas vraiment les moyens.
Et justement ces combats.
Oui, d'ailleurs ça se voit un peu, hein. C'est vrai que ça fait un peu cockpit de pacotille, on est loin de Top Gun, hein. Mais bon, en même temps c'est dans les années 70, on ne peut pas non plus faire mieux que ça. Et ils utilisent aussi les actualités qui ouvrent certains épisodes et qui mêlent à la fois des images de fiction et des images réelles du front et qui est fait en espèce de Carl Zero, là, tu vois. Donc ça donne un côté un peu vrai.
Pas mal de stock shoot alors.
Oui, ça c'est un des trucs qui ne va pas très bien. C'est leur... Enfin, bon, soit. Il faut garder cependant à l'esprit, comme tu le disais, que c'est très largement inspiré de la réalité, tout simplement parce que c'est une comédie et que donc c'est censé être distrayant, donc c'est pas Frères d'Armes, comme je vous disais. Alors les comédies sont pas finalement si rares que ça dans le genre fiction de guerre, même à la télévision. Il y a Sur le pont la marine, qui est une série pas très connue des années 60, il y a Stalag 13, Papa Schultz, évidemment, dans les années 60 aussi, où là on est centré sur les prisonniers, si vous vous souvenez. Il y a Humache, qui se déroulait pendant la guerre de Corée, Opération Charme dans les années 70, ou Major Date, plus proche de nous, qui était une sitcom familiale finalement basée sur la famille du Major Gillis. Ces séries sont finalement assez proches d'un courant qui a aussi traversé le cinéma. On l'oublie parfois quand on regarde Apocalypse Now ou Platoon, mais on a beaucoup rigolé à propos de la guerre. C'est les Marx Brothers qui ont commencé en 33 avec Duke, ou même Charlie Chaplin en 39 avec Le Dictateur. Pendant la guerre, certaines comédies sont censées remonter le moral des troupes, par exemple In the Navy. Et puis après la guerre, il faut attendre les années 60 ou 70 pour que reprennent les comédies. Babette s'en va en guerre avec Brigitte Bardot, évidemment La Vache et le Prisonnier, La Grande Vadrouille, toutes les séries des 7e Compagnie, Papy fait de la Résistance, Les Bidas en Folie. Ah, on oublie souvent Les Bidas en Folie.
On en passe, c'était moins bon.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, depuis Shoah de Claude Lanzmann et La Liste de Schindler, on remit un peu les pendules à l'heure et on rit beaucoup moins maintenant de la guerre, et notamment la guerre sur le Vietnam et plus récemment la guerre d'Irak ou le 11 septembre ont fait qu'on ne rit plus vraiment à propos de ces sujets-là, mais à l'époque c'était encore d'actualité. Alors je me suis dit que j'allais vous passer les news du début dont je vous ai parlé. J'ai choisi celle de l'épisode Portée disparue, où c'est axé sur un pilote qui est donc porté disparu mais qui subit un lavage de cerveau par les Japonais. Et vous allez voir que ce qui est intéressant dans celle-là, c'est d'abord la voix. Vous allez retrouver la voix typique des news de l'époque, des news cinématographiques. La première partie, ce sont des événements réels et d'ailleurs des images d'époque, mais ça vous les verrez pas. Et la deuxième partie est complètement fictive, et il faut savoir qu'à ce moment-là, la bande image mélange à la fois des images d'époque et des images tournées actuellement, mais qui font époque, noir et blanc, avec un peu de gratté, etc. C'est assez intéressant.
Les marines s'emparent de l'île d'Isabelle. Les forces alliées se sont lancées vers les îles Christmas et établissent une tête de pont sur le récif des Isabelles pour lutter contre la résistance féroce de l'ennemi. Les forces aériennes et navales des alliés repoussent les Japonais et infligent des pertes importantes à leur base, après les avoir fait reculer sur leur position. Une offensive alliée de grande envergure a débuté. Un héros a disparu. Encore un qui a rejoint la liste glorieuse des hommes qui ont fait le sacrifice suprême dans la lutte contre la tyrannie. Le capitaine Charles W. Dobson, décoré de la Croix des Marines, de la médaille militaire et de la médaille du mérite, a été abattu la semaine dernière par des appareils de chasse ennemis. Un héros de plus est tombé au combat et est porté disparu. Sa perte attriste le pays tout entier, mais elle sert aussi à réaffirmer la détermination de chacun de nous, hommes, femmes et enfants, de se dévouer corps et âme à la victoire finale et inéluctable.
Pour un article que j'ai récemment écrit pour la revue Médiamorphose, et je me dois de la citer parce que toutes les données sont dedans, je me suis amusée à compter les fictions de guerre à la télé. Et je me suis rendu compte d'abord que c'était pas un genre prédominant, mais ça on le savait déjà, que sur le site imdb.com on a 5600 plus ou moins séries de guerre contre 3 fois plus de policiers ou 14 fois plus de comédies. Donc clairement, c'est pas le truc qu'on préfère.
En même temps, c'est un genre qui coûte cher.
Aussi, oui. Et puis c'est un genre un peu casse-gueule, hein. Faut quand même avouer le truc. Bon, dans tout ça, on a que 95 fictions qui sont des séries. Tout le reste, c'est des films, des dessins animés, des téléfilms et majoritairement des documentaires, puisque IMDb reprend tout en même temps. Sur 135, près de la moitié parle de la Seconde Guerre mondiale. Quand même, c'est énorme. Même des séries actuelles, Frères d'Armes par exemple, parlent de la Seconde Guerre mondiale et pas de conflits plus récents. 32% de ces séries sont américaines. Alors 27 pays de par le monde nous font des séries de guerre. Alors principalement la Yougoslavie, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les USA. On va presque dire que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et sur les séries à propos de la Seconde Guerre mondiale, on nous parle du peuple, de la résistance, etc., de la situation politique en Allemagne, de l'armée au sens large, du genre, les casernes et tout, mais surtout 50% parlent des combats. Et donc on se rend compte que dans les séries télé en général, c'est surtout un point de vue américain axé sur la Seconde Guerre mondiale et sur les combats dans la Seconde Guerre mondiale. On remarque assez vite aussi que ça soit pour les têtes brûlées ou par exemple même Frères d'Armes, l'ennemi n'est pas si important que ça. Il est rarement visible, il est simpliste, du genre, je sais pas tirer... Et quand je touche 15 fois l'avion, il n'explose pas, mais quand les Américains touchent une fois l'avion, il explose. Ou alors, à contrario, il est tellement bon que le fait que de le battre rend les Américains encore vachement plus valeureux. Alors la plupart du temps, il faut savoir que dans ces séries-là, les soldats se battent contre d'autres soldats de leur propre armée. Et c'est flagrant dans les têtes brûlées, où ils n'arrêtent pas de s'opposer aux marins ou à d'autres pilotes. Et finalement, ils règlent généralement leur compte par un match de boxe ou un match de volley ou un match de football américain. Et puis ils se serrent la patte et tu te dis bon, d'accord. L'ennemi, ce sont aussi les supérieurs la plupart du temps. Alors ici, le colonel Lard. Pensez par exemple à Dyke ou à Sobel dans Frères d'Armes, qui sont finalement pas du tout compétents. Que ce soit des héros simples soldats, finalement, c'est pas si innocent que ça. C'est donc pas des supérieurs et pas des généraux, donc pas ceux qui prennent les décisions stratégiques, ce sont pas les politiques, donc ceux qui prennent la décision de partir en guerre. Et donc ces soldats, ils subissent la guerre, ils l'ont pas choisi, et donc c'est difficile de critiquer ces petits gars. Il y aura jamais, dans ces séries, un propos un peu critique vis-à-vis de la guerre.
C'est la chair à canon, donc on doit les respecter.
Tout à fait. Jean-Michel Valentin, qui est un sociologue qui analyse les séries et les rapports entre Pentagone et Hollywood, donc la propagande, déclarait à propos de « Il faut sauver le soldat Ryan » que les Américains évoluent dans un no man's land, un espace vide où finalement on trouve juste une famille française histoire de faire couleur locale et c'est tout. Selon lui, cette façon de filmer traduit un sentiment selon lequel les Américains considèrent le monde comme un espace vide dans lequel ils peuvent projeter leurs forces armées à l'envi. Il remarque aussi qu'il y a très peu de dimension politique et que finalement la guerre devient un état normal des États-Unis en dehors de leur propre pays. Donc c'est finalement habituel et on ne doit plus motiver son choix, justifier, etc. Dans le cinéma, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Février, qui est un chercheur de Louvain-la-Neuve, cocorico comme on dit, il y a des films de témoignages, par exemple Shoah, il y a des films d'archives, l'histoire du cinéma de Godard par exemple, ou de reconstitution, le soldat Ryan, et on voit qu'à la télévision, on n'a que des séries de reconstitution, on n'a pas de séries de témoignages ou d'archives, et donc ça veut dire qu'on reprend des faits réels, qu'on les rejoue et qu'on les présente comme vraisemblables, parce que même si les têtes brûlées c'est très éloigné du réel, on nous présente quand même le truc comme étant réaliste. Et donc ce sont des œuvres assez consensuelles qui ne remettent pas les choses en perspective, qui ne remettent pas les choses en question, qui ne s'en posent pas des questions, puisque comme on l'a déjà dit, on suit les simples soldats, donc on suit leurs aventures. Jean-Michel Aventin qui remarquait que le soldat Ryan et son côté apolitique, qui présente une version héroïsée du soldat et donc de la guerre, c'était pas innocent de voir que c'était arrivé au moment juste avant le 11 septembre, et donc au moment de la guerre contre le terrorisme et contre le Moyen-Orient. Et on remarque que les têtes brûlées sont arrivées justement en 1976, c'est-à-dire juste après la guerre du Vietnam et en plein pendant la guerre froide. Et Frères d'Armes, et d'ailleurs Pacific, qui est la suite de Frères d'Armes, parle elle-même de la Seconde Guerre mondiale, mais dans ce contexte du 11 septembre. Donc finalement, ces séries, elles arrivent toujours dans des contextes assez marqués, où l'Amérique est en guerre. Loin de moi de dire que ce sont clairement des séries de propagande, mais on remarque que donc les fictions sont plutôt consensuelles à la télévision et qu'elles arrivent en des moments marqués, et que c'est pas innocent. Ceci dit, tout ce que je viens de vous dire là, ça ne vaut que pour la Seconde Guerre mondiale. C'est comme si on ne pouvait pas toucher à cette guerre-là, alors que la guerre du Vietnam, de Corée, voire la guerre contre l'Irak ont été beaucoup plus critiquées à la télévision. Pensez à MASH, pensez à L'Enfer du Devoir, ou plus récemment à Ovoder, qui sont des séries qui critiquent réellement ces conflits. Mais donc c'est assez bizarre de voir que la guerre dont on parle le plus, même à l'heure actuelle, est une guerre du passé qu'on ne peut pas toucher, qui est... une espèce de sanctifié, sacralisé, je sais pas très bien comment dire. Ceux que ça intéresse, je vous conseille de lire donc les livres de Jean-Michel Laventin et le numéro 113 de Cinémaction qui est axé sur l'armée à la télévision et au cinéma et c'est assez intéressant.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.